Vous êtes sur RTL.
Sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Le journal, c'est avec vous, Olivier Bois, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et à la une, cette question, Sanofi va-t-il sauver l'honneur ?
Le laboratoire distancé dans la course au vaccin vient de présenter les résultats de ses dernières études. On fait le point dans un instant. J-2 avant la réouverture des terrasses, vous verrez que certains serveurs, un peu rouillés, suivent des formations de remise à niveau. Israël a encore intensifié ses frappes aériennes cette nuit sur la bande de Gaza. La journée d'hier a été la plus meurtrière depuis une semaine. Et puis le football, suspense en tête de Ligue 1 après le match nul de Lille et la victoire de Paris. Tout se jouera lors de la dernière journée. On n'avait plus vu ça depuis 19 ans.
RTL Matin.
700 millions de personnes dans le monde ont reçu au moins une première injection du vaccin contre la Covid. Un an et demi seulement après l'apparition de ce virus, ça restera dans l'histoire de la médecine comme une prouesse sans précédent. Et la recherche française aura pour le coup, et pour le moment en tout cas, complètement raté le coche. Sanofi, très vite, a été distancé par Pfizer, BioNTech, Moderna ou encore AstraZeneca. Les Russes et les Chinois ont également leur propre vaccin. Nous l'attendons toujours. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Où on est donc le laboratoire français qui vient de présenter effectivement ce matin les résultats de ses dernières études.
Résultat de l'étude de phase 2 qui permet d'évaluer la réponse immunitaire, pas encore l'efficacité du vaccin en tant que tel. 700 personnes incluses, 722 très exactement. Le vaccin Sanofi développé avec GSK induit une production élevée d'anticorps neutralisants pour combattre le Covid dans 95 à 100% des cas, avec des performances très élevées chez les plus jeunes. Autre information, le sérum semble bien toléré, pas de problème de sécurité. Résultat encourageant, positif après l'échec de cet hiver, mal dosé, le précédent vaccin avait dû être abandonné. La prochaine étape, c'est maintenant la phase 3, avec 35 000 personnes qui va commencer dans les tout prochains jours pour tester cette fois-ci donc l'efficacité du sérum pour éviter les formes graves du Covid et la mortalité. Deux variants seront testés, variant chinois, historique, et le variant sud-africain, si tout va bien, résultat à l'automne et première dose dans la foulée fin 2021.
En théorie, d'ici là, Sophie, on sera tous vaccinés. À quoi va donc servir ce vaccin Sanofi?
Voilà ce que répond Thomas Triomphe, le responsable monde de Sanofi Pasteur. Tous les vaccins seront utiles pour lutter contre la pandémie, d'autant que chacun fonctionne différemment. ARN messager pour Pfizer et Moderna, virus inactivé pour AstraZeneca, vaccin recombinant avec adjuvant pour Sanofi, avec donc le même principe que celui de la grippe. Tout dépendra aussi bien sûr des variants. Et le laboratoire français va également se positionner sur la dose de rappel, une dose de boost quelques mois après une première injection. Nous en serons là l'hiver prochain.
Merci beaucoup Sophie Orange. On rappelle à ce stade les chiffres chez nous. 20 millions de Français ont été vaccinés. L'objectif reste d'atteindre les 30 millions mi-juin avec une première dose. Et l'épidémie, elle continue de régresser. On est sous les 15 000 cas détectés par jour en moyenne depuis une semaine.
Voilà donc pour les indicateurs plutôt encourageants à deux jours de la nouvelle phase de déconfinement.
Marcel, deux cafés pour la 4, s'il te plaît.
Et oui, J-2 avant la réouverture, entre autres, des cinémas, des musées et des terrasses. On continue à suivre, vous le savez, sur RTL, la machine qui se remet en route. Figurez-vous qu'après une telle période sans travail, certains serveurs sont un peu rouillés et des formations de remise à niveau sont proposées, comme ici à côté de Montpellier, reportage de Pierre Collat.
Des tables, des chaises et un vrai bar. Nous ne sommes pourtant pas dans un restaurant, mais bien dans une salle de cours.
Alors, il faut trois points d'appui sur l'assiette. 1, 2 et 3. Là, t'es trop en arrière. Il faut que tu t'avances et qu'il faut que ton assiette, voilà, elle soit en contact. Okay. T'es stable ?
Ouais.
Shaima, 21 ans, réapprend à débarrasser une table.
Moi, j'étais serveuse, j'ai travaillé 2 mois, j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai adoré. On pratique, c'est ça qui est bien, on nous apprend beaucoup. Quand ça va rouvrir, quoi, on sera bien, bien travaillé comme il faut, quoi.
Sébastien, lui, a de l'expérience, 11 ans de service en salle, mais ça fait un an et demi qu'il n'a pas touché une assiette.
On reprend un peu les bases, on reprend à porter un plateau, on fait de la pratique, donc c'est vraiment très bien.
Le prof du jour, c'est Sébastien Sanchez.
L'idée, là, c'est de remettre un petit peu à niveau, de faire quelques piqûres de rappel à ceux qui ont déjà de l'expérience et de enseigner les bases et transmettre les bases du service à ceux qui n'en ont pas du tout et qui se recyclent dans ce domaine-là.
Et les 15 stagiaires finiront leur formation en juin. Ils cherchent déjà du travail pour pouvoir commencer à servir dès le début de l'été.
Voilà, reportage de Pierre Collat pour des serveurs complètement opérationnels dans deux jours. Les cures thermales rouvrent leurs portes également dans deux jours. Activité essentielle dans les stations qui vivent essentiellement de l'afflux de touristes en quête de remise en forme. C'est le cas dans le Puy-de-Dôme, au Mont-d'Or, où vous vous êtes rendu, Guillaume Frixon.
Dans les termes du Mont-d'Or, c'est en temps normal plus de 100 personnes qui travaillent et 10 000 curistes qui se succèdent sur l'année. Une aubaine pour les professionnels comme Laurent, dont le magasin est situé à moins de 200 mètres de l'entrée des thermes.
On attend qu'il soit là, oui. Avec impatience, oui.
Avec 1h30 de cure en moyenne chaque matin sur 18 jours, autant dire que le curiste a du temps ensuite pour se faire plaisir dans les magasins de la ville thermale. Théo est vendeur à la petite boutique du Bougnat.
Bien sûr, c'est une grosse clientèle, les curistes. Il prend de la charcuterie, des petits souvenirs pour ramener à ses amis, à sa famille. Donc il va prendre des saucissons, à ramener beaucoup de jambon aussi. C'est vraiment là-dessus qu'on a notre clientèle. Un petit peu de bouteilles de vin, beaucoup de produits du terroir. Ouais, ils se font plaisir, ils n'hésitent pas.
Et lorsque les cures reprennent, c'est aussi la reprise des locations de logements sur place. Marie-Christine Bovy est agent immobilier au Mont d'Or.
On a beaucoup de réservations pour juin, juillet, août, septembre. Et comme la cure ferme mi-novembre, et ben on a des réservations jusqu'à la fin.
En France, 700 millions d'euros sont dépensés indirectement par les curistes dans l'économie locale.
Merci Guillaume Frixon. Sachez que nos amis britanniques, eux, rouvrent leurs pubs et leurs restaurants aujourd'hui en intérieur, avec tout de même des tables plus espacées. Ils avaient pour le coup rouvert les terrasses le 12 avril dernier.
Il est 8h06 sur RTL. On marque une pause et dans un instant, les raids israéliens qui se sont encore intensifiés cette nuit. Vous allez notamment entendre le témoignage d'un habitant de Gaza. A tout de suite.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal d'Olivier Bois. La journée a été sanglante hier au Proche-Orient.
42 Palestiniens sont morts dans la bande de Gaza. C'est le bilan le plus lourd depuis une semaine. L'armée israélienne, entre autres, a détruit la maison du chef militaire du Hamas. On ne sait toujours pas d'ailleurs à cette heure s'il était à l'intérieur. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou justifie ses frappes en représailles aux très nombreux tirs de roquettes. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
L'armée israélienne qui a d'ailleurs poursuivi ses frappes cette nuit.
Oui, l'aviation israélienne a pilonné la bande de Gaza à des dizaines de reprises en l'espace de quelques minutes. Les bombardements dans cette zone extrêmement peuplée ont été intensifs. Les cibles, selon Israël, ce sont les membres et les infrastructures du Hamas, qui auraient tiré plus de 3000 roquettes vers Israël en une semaine. La plupart, toutefois, étaient détruites avant d'arriver au sol. Dans cette ville de Gaza, impossible, même lors de frappes dites chirurgicales, de ne pas toucher les civils qui sont les premières victimes de ce conflit. Depuis une semaine, ils vivent au rythme du bruit des drones et du passage des avions de chasse. Les jours comme les nuits sont un enfer, raconte cet habitant de Gaza que je viens de joindre.
On ne dort pas la nuit maintenant. Maintenant, on ne dort pas. On reste toute la nuit réveillé à cause de bombardements et c'est difficile. C'est aussi surtout les enfants, ils ont peur et c'est horrible pour les enfants.
Alors il faut rappeler que Gaza, c'est une bande de terre de 40 km de long sur 12 de large au grand maximum, dans laquelle sont enfermés plus de 2 millions de Palestiniens. C'est la plus forte concentration au monde. Plus de 40 000 d'entre eux ont déjà dû fuir leur logement pour se réfugier dans des écoles ou chez des parents tout aussi démunis.
Merci Christophe Decroix, chef du service étranger d'RTL. Du côté de la diplomatie, c'est l'impasse. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas parvenu à une déclaration commune hier à l'issue de sa réunion. Israël et l'autorité palestinienne se renvoient la responsabilité de cette crise.
Et à 8h20, nous serons avec Daniel Saada, l'ambassadeur d'Israël en France, sur RTL. Il est 8h09, retour en France à présent. Et cette info, RTL, Olivier, dans l'enquête sur la mort de Samuel Paty.
Oui, ce professeur d'histoire assassiné en octobre dernier devant son lycée de Conflans-Sainte-Honorine. Si le terroriste Abdullah Kanzorov a agi seul, les investigations ont permis d'établir qu'il avait dans son entourage des suspects radicalisés avec qui il discutait très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et à qui surtout il aurait clairement indiqué son intention de passer à l'acte. C'est vous qui nous révélez cette information ce matin, Nicolas Burnand.
Oui, il s'agit d'une série de messages retrouvés dans son téléphone portable. Abdullah Kanzorov était en lien régulier avec deux jeunes Français ultra-radicalisés sur un groupe Snapchat. Le 10 octobre 2020, il leur communique d'abord l'identité du professeur d'histoire géo et l'adresse du collège. Nous sommes 6 jours avant l'attentat. Puis, le 16 octobre, à 15h38, il écrit « J'ai une épreuve à accomplir, faites des prières pour moi » en réclamant notamment la Shahada. Cette demande religieuse est faite lorsque les combattants vont mourir en martyr. Ces deux contacts acceptent. À 16h58, la photo d'une tête décapitée est postée. Samuel Paty vient d'être assassiné. En réponse, trois émoticônes rieurs apparaissent. Identifiés par les enquêteurs, les deux jeunes Français sont interpellés en novembre dernier. L'un d'eux, âgé de 18 ans, d'origine tchétchène, qui rêve de faire le djihad, affirme devant les policiers ne pas avoir compris quand Zorov allait passer à l'acte. Il explique que son ami devait refaire son permis de conduire et nie les faits qui lui sont reprochés. Il est aujourd'hui mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes.
Information RTL, signé Nicolas Burnand. En bref, le meurtrier fugitif des Cévennes a passé sa première nuit en prison, mis en examen pour l'assassinat de son patron et de l'un de ses collègues mardi dernier. On découvre que pendant ces trois jours de cavale, il s'est terré dans un trou à sanglier à 600 mètres seulement de chez lui. Il s'était rendu finalement vendredi, complètement affamé et déshydraté. Et puis l'adolescent de 14 ans qui a tué Marjorie, cette jeune femme de 17 ans, vendredi à Ivry-sur-Seine, a lui aussi été incarcéré. Il affirme qu'il n'avait pas l'intention de la tuer et qu'il était sorti de chez lui avec un couteau pour se protéger. Le contexte étant celui de jeunes qui s'invectivent et qui se menacent sur les réseaux sociaux.
On termine avec le football et ce suspense total en tête de la Ligue 1.
Oui, Lille n'a fait que match nul, 0 partout face à Saint-Etienne, alors que le PSG a gagné 4-0 à Reims. Le PSG recolle à un point, tout reste possible pour l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino.
Bien sûr qu'on doit y croire, tout peut arriver en football. Mais pour ça, on doit d'abord faire notre travail en allant gagner à Brest, puis en espérant que Lille ne gagne pas face à Angers.
Et voilà, donc tout se jouera dimanche prochain, dernière journée, ça n'était plus arrivé depuis 19 ans. Monaco a battu Rennes 2-1 et reste un point devant Lyon, qui l'a emporté 5-2 face à Nîmes, qui descend pour le coup en Ligue 2, c'est maintenant officiel. Nantes reste 18e et barragiste après sa victoire 4-0 face à Dijon. Bordeaux a battu Lens 3-0 et reste sous la menace également d'une relégation possible. Même chose pour Brest qui a fait match nul 0 partout contre Montpellier. Strasbourg, lui non plus, n'est pas sauvé malgré sa victoire contre Nice 2-0.
C'était le journal d'Olivier Bois. Merci Olivier, il est 8h13.
Jérôme Florin, RTL Matin, 7h-9h30.
Alors, vous l'avez sans doute remarqué, hein, si vous avez fait réparer votre voiture récemment, fait changer un pare-choc, un rétroviseur, la facture a pris un petit coup de chaud. L'addition est de plus en plus élevée en raison de la flambée des prix des pièces détachées. Gros plan avec la brigade RTL. Christophe Bourroux, bonjour.
Bonjour.
Les prix ont augmenté de 3% en premier trimestre. Hein.
Oui, et ce qu'il faut souligner, c'est la durée de cette hausse des prix qui, mois après mois, année après année, continue de grimper. Plus 3% en premier trimestre, plus 6,5% en un an. Ajoutez à cela le coût de la main-d'œuvre, lui aussi en hausse constante, tout comme celui de la réparation qui a fait un bond de l'ordre de 8% en 5 ans. Bref, vraiment de quoi plomber notre facture.
Alors pourquoi une telle flambée des prix, Christophe ?
À cela deux raisons. D'abord, on pêche cher la technologie, notamment sur les SUV, avec des pièces particulièrement travaillées, comme l'éclairage et les phares à LED. Ainsi, changer une optique pour un éclairage peut vous coûter jusqu'à 1000 euros. Autre exemple, la plupart de nos voitures sont équipées de radars de recul installés dans le pare-choc arrière. Résultat, quand on l'abîme, on doit non seulement changer la pièce en plastique, mais aussi les capteurs, ce qui forcément alourdit l'addition.
Alors l'autre explication, c'est que le marché est quasiment fermé à la concurrence.
En effet, en France, et c'est une particularité, les constructeurs ont un monopole sur la plupart des pièces, sur ce qu'on appelle les parties visibles du véhicule, comme les phares, les rétroviseurs et les éléments de carrosserie, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Autrement dit, si vous avez besoin d'un rétroviseur neuf pour votre voiture, votre garagiste va s'approvisionner directement auprès de Renault, Peugeot ou Citroën.
Et ça, c'est une exception européenne.
Oui, car dans les autres pays, le marché, lui, est ouvert à la concurrence. Si vous traversez la frontière, vous allez réaliser immédiatement des économies, style un pare-choc qui est vendu 300 euros en France. Il vaut 3 fois moins cher en Allemagne ou en Espagne. Ou si les professionnels estiment couvrir ce marché, à l'image de nos voisins européens, permettrait de faire baisser immédiatement les prix de 17%.
Alors, ouvrir le marché à la concurrence pour redonner du pouvoir d'achat aux automobilistes, on s'en souvient, c'était une promesse du gouvernement avec Édouard Philippe, qui l'avait évoqué d'ailleurs en pleine crise des Gilets jaunes. On en est où depuis ?
Alors, plusieurs tentatives parlementaires ont échoué, retoquées par le Conseil constitutionnel. Il y a un mois, un député de la majorité, Damien Pichereau, a déposé une proposition de loi en ce sens. L'idée est aussi de faire baisser les primes d'assurance, fortement impactées par les prix des pièces détachées. Et au final, ouvrir ce marché représenterait une économie globale de l'ordre de 415 millions d'euros par an pour les automobilistes, selon UFC Que Choisir.
Et que disent les constructeurs ?
Ils craignent que le marché se retrouve inondé de pièces produites à l'étranger en cas de libéralisation trop brutale, ce qui pourrait avoir des impacts sur l'emploi en France.
Brigade RTL signée Christophe.